Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Je vais le mettre en place et commence de suite. Elle n'a pas déjeuné? Non. Bien. Préparez-lui un potage. Vous pouvez vous retirer. Et les deux hommes se retirent. Le médecin dit à Luc, elle est très efficace. Et ne faites pas de soucis, sa famille était concierge de père en fils. Luc lui dit, je n'en doute pas, vous n'avez pas à vous en occuper. Éclair est entre les mains de l'infirmière. Les domestiques ont appris que leur maîtresse est très malade et qu'il y a même une infirmière pour s'occuper d'elle. C'est bien la preuve qu'elle est bien malade. Luc se sent très coupable, mais ne peut plus revenir en arrière. Et puis entre ces deux escrocs, il le dénoncerait. Et il se dénoncerait et j'en avec. Claire s'affaiblit de jour en jour, le manque de nourriture, la drogue, et perd la notion du temps et de la réalité. Vit dans un brouillard, maigrit. Ses membres s'atrophient. L'infirmière lui fait sa toilette, lui donne à manger, la lave, la soigne, etc. Elle est constamment dans la pénombre. Luc n'a plus le droit d'aller la voir. Le médecin la visite une fois par semaine pour renouveler les médicaments et augmenter les doses. Dit à l'infirmière, il faudra aller lentement, il paye bien, ne pas tuer la poule aux œufs d'or de suite. Un client comme celui-là, c'est une bonne affaire, alors doucement, gardez-la bien et qu'elle dure, rien de plus. De toute façon, il ne demande rien de plus. Elle lui dit, ne vous faites pas de soucis, ça me rapporte plus que les hospices civils. Et j'ai un projet d'ouvrir une maison de retraite pour femmes seules. Le médecin rit et lui dit, je vois la chose, petite coquine, va, j'espère que j'en saurai. Elle lui dit, bien sûr, mon cher, nous allons nous faire un bon pécule. Je connais des dames très bien qui demandent que ça. Et j'ai un château pour faire l'affaire. Mais j'attends que le propriétaire décède. Il m'a mis sur son testament. Je lui ai fait croire que j'étais sa fille naturelle. Il lui dit, et il l'a cru? Oui, bien sûr. Il lui dit, une femme comme vous, j'en serais fière. Elle lui dit, lui non, il aime les femmes bien en chair. Le médecin lui dit, il est incestueux. Oui, et ça l'excite, ce vieux cochon. Il a quel âge? 86 ans. Et encore vert. Enfin, c'est lui qu'il croit. J'ai dû lui expliquer que si la chose ne marchait pas, un doigt était tout aussi bon. Alors, il est très heureux et ça l'excite encore plus. N'est-il pas bête? Lutin lui dit, oui, mais riche. Luc n'ose plus voir sa femme, il a honte. Alors, il la laisse entre les mains de ses deux escrocs. D'ailleurs, lui aussi est entre leurs mains. Les domestiques pensent que leur maîtresse est très malade. La preuve, il y a une garde malade, une femme efficace et dure. Les gens des environs ont appris que Claire était très malade et qu'il fallait pas la déranger. Claire passe ses journées dans les vapeurs de l'opium et de pavot, de morphine. Elle a complètement oublié la mort de son cousin. Henri a pris la maladie de Claire. En prenant son petit déjeuner, il demande à Jeanne. Ce qu'a Claire, Jeanne lui dit, elle a une grande fatigue. Ce doit être le sang qui a dû s'affaiblir. Elle doit rester au lit et dormir. Henri lui dit, devrions aller la voir? Non, les visites sont interdites. Comme c'est triste. Jeune mariée et malade. Jeanne s'ennuie. Elle n'a aucun sentiment pour son mari, Henri. Avec Luc, elle était liée par tant de choses, de secrets. Elle se languit de Luc. Son mari la voit triste et mélancolique et lui demande, qu'as-tu? Elle lui dit, rien. Je vois que tu t'ennuies. Je crois qu'il serait bon c'est que nous ayons un enfant. Elle lui dit surprise et irritée, un enfant. Je ne veux pas.
pas d'enfant.
Et pourquoi? Parce que ça me dit rien. Et puis, j'aime pas les enfants. Il lui dit, mais c'est ridicule, toutes les femmes aiment les enfants. Eh bien, moi, non, je les déteste. Ne dis pas de bêtises. Instinctivement, les petites filles veulent pouponner. Regarde les filles jouer à la poupée. Elle lui dit, d'ailleurs moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'aime pas les poupées. Et je refusais d'en avoir une. Je préférais c'est avoir un fusil et courir dans la campagne. Et puis, si tu regardes bien les petites filles avec leurs poupées, qui ne ressemblent pas à des bébés d'ailleurs, mais plutôt à des petites femmes, jouent à être des femmes, jouent à la dinette, à être comme font leurs mamans lorsqu'elles reçoivent leurs amis. Elles jouent à être grandes. Avoir des poupées, ce n'est pas materner. Il lui dit, je ne sais pas, mais moi, je vois bien que les petites filles aiment les bébés, d'instinct. Alors toi aussi, tu aimeras. Elle lui dit, sûrement pas, je les déteste. Et pourquoi? Pour l'accouchement, la souffrance, et puis ça on l'a dit. Et pourquoi est-ce que je serais obligé de m'occuper de ça toute la journée et même la nuit? Mais nous aurons une nourrice, et lui dit, non, je ne veux pas d'enfant. Il lui dit, bien, comme tu voudras, mais il faudra bien que nous en ayons un, Et pourquoi faire? Pour la descendance et l'oser des poules. La descendance. On t'enterre? Qu'est-ce que ça peut te faire de ce que tu laisses? Et puis, tu trouveras bien quelqu'un qui s'occupera des affaires que tu vas laisser. Il lui dit, oui, mais j'aimerais bien c'est que ce quelqu'un soit de mon sang. Et elle lui dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Une fois que l'on est mort, on n'a plus à s'occuper de ces choses-là. Avant de mourir, dépend tout ce que tu as. Comme ça, tu n'auras pas de remords. Il lui dit, tu as d'autres idées, toi, pas très chrétienne. Et lui dit, si, parce qu'il est dit que les richesses terrestres ne doivent pas compter. Il lui dit, bien, eh bien, nous n'aurons pas d'enfants pour le moment. Mais que vas-tu faire de ta vie? Elle ne lui dit rien. Il est triste qu'elle ne veuille pas d'enfants. Il la voit s'ennuyer, passer des heures à lire des romans. Il essaie de les distraire en lui parlant de choses et d'autres, de ses affaires, de potins parisiens, de ses voyages, mais rien ne l'intéresse. Rien ne l'intéresse parce que c'est lui qui le lui dit. Et parce qu'il ne parle pas d'elle. Il le voit, sa tristesse, et se dit qu'elle ne l'aime pas. Il se demande pourquoi elle s'est mariée avec lui. Sûrement pour son argent. Maigri, devient neurasthénique, se demande pourquoi il est marié. À force de se poser des questions, lui aussi ne parle plus à sa femme. Il la regarde en silence, avec des yeux tristes. Elle, ça l'agace. et s'éloigne de lui. Il se sent de moins en moins chez lui heureux. Il préfère voyager. John a l'impression d'être tout à fait. Cette vie l'ennuie. Avec un mari qui a un regard de victime, qui semble lui dire qu'elle ne l'aime pas, tout ça lui est insupportable. Elle étouffe et a envie de fuir, quitter tout ça. Elle se dit que Luc a de la chance. Lui, sa femme, le laisse en paix. Et qui sait, bientôt, peut-être, définitivement. Tandis qu'elle, elle a peur. Des commérages. Elle n'a rien à dire à son mari. Et son mari aussi ne lui dit rien. Il a juste son regard suppliant qui semble lui dire « Aime-moi, aime-moi. » Lorsque l'après-midi, n'en peut plus, elle fait de longues marches à la campagne, devant elle. Les bois l'enivrent. Là, seule, elle se sent mieux qu'avec lui. Et se dit que peut-être il serait bien qu'ils se séparent, que de toute façon ils ne sont plus mari et femme. Elle retournerait à la ferme. Elle retrouverait les courses folles avec lui. Ah, Luc, c'est la vie, la liberté, Luc. Son mari, c'est déjà le tombeau. Et soupire et se dit, il n'y a que la nature qui est vraie. Après-midi, elle est en train de marcher, en pensant à sa vie. Elle voit arriver à elle un cavalier et reconnaît avec joie que c'est Luc. Il est surpris de la voir. Jean, bonjour. Bonjour Luc. Et toute heureuse de le revoir, descend de cheval, le tient par la bride et va à elle. Elle lui demande, que fais-tu dans ces bois? Il lui dit, je fais de longs chevauchées l'après-midi. Ça m'a amené jusqu'ici, et toi? Moi, je marche tout l'après-midi. Je suis heureuse de te revoir. Il fait, moi aussi. Elle lui dit, je savais pas que tu sois fâchée contre moi à cause de toutes ces histoires. Il lui dit, j'aurais de quoi, non? Mais ça m'a donné beaucoup de soucis. Oui, j'ai été fâchée. Mais maintenant, j'y pense plus. Les choses sont faites. Elle lui dit, oui, je suis très triste, mais ce n'était pas tout à fait de ma faute. Les circonstances, et puis ce jeune homme, là, méritait malgré tout. C'était un maître chanteur et m'a traité plus bas que terre. Lui qui dit, ne pensons plus. Tu as des nouvelles de la police? Elle lui dit, non. Et toi? Moi non plus. Peut-être n'ont-ils pas de nouvelles? Tu es allé où? Elle lui dit, nulle part. Eh bien, allons-y. Moi aussi, je vais nulle part. La vue au château est étouffante. Ce silence de mort. Parce que ma femme est malade, même mes domestiques ne font pas de bruit pour risquer que la pauvre maîtresse soit fatiguée. La porte de la chambre est toujours close. Pas de bruit. On y sent drôle d'odeur. Et je n'ose pas aller la voir. L'infirmière qui s'occupe d'elle ressemble plus à un garde, à une gardienne de prison qu'à une infirmière. Son visage est tellement dur. Elle semble dire, je sais ce que j'ai à faire, que je n'ose lui parler. Alors, je refuse. Je préfère me taire. J'ai tout chez moi. Heureusement que j'ai mes terres et mes théiers. Elle lui demande, et la ferme? Il lui dit, ça va très bien. Le paysan qui s'en occupe est très bien. Il a une famille. Mais je crois que Yann va y retourner. Quelque chose me dit qu'il doit avoir des ennuis d'argent. Et il m'en doit. Elle lui dit, le pauvre Yann. Il lui dit, il n'est pas à plaindre. Il vit seul et fait ce qu'il veut. C'est-à-dire rien. Rien à part dépenser l'argent des autres. Nous sommes plus à plaindre que lui. Et son père lui dit, oui, tu as raison. Moi aussi, ma vie est un enfer. Mon mari ne me parle plus. Il se contente de me regarder avec des yeux suppliants. Je n'ai plus rien à faire. Et je m'ennuie à mourir. Oui, je m'ennuie à mourir. À mourir. Qu'une seule chose, c'est revenir libre et de vivre comme avant, avec toi. Il lui dit, c'est impossible malheureusement, tu es marié. J'aimerais bien divorcer. Tu es folle, je serais le déshonneur, on ne divorce pas par ici. Il lui dit, alors il faut être veuve. Oui, il faut être veuve. Il lui dit, ne fais pas de bêtises. Elle lui dit, nous sommes prisonniers tous les deux. Nous n'aurions pas dû nous marier. Il lui dit, c'est toi qui l'as fait la première. Je t'avais demandé. Elle lui dit, c'était impossible. Je savais bien, à cause de père. Mais pourquoi Pierre a-t-il fait de toi mon frère? Il lui dit qu'il croyait que c'était pour mon bien, mais en réalité, ça a fait mon malheur. Oui, ça a fait mon malheur. Elle lui dit, notre malheur, notre malheur. Et qu'allons-nous devenir maintenant? Il lui dit, rien. rien. Espier nos péchés. Elle lui dit, quel péché? Celui de nous aimer. Et elle dit, celui-là aussi, oui, celui-là aussi. Dans une sorte d'hôtel minable, sombre, petite et sale. Un lit à une place en fer, une petite table de nuit, une armoire à une porte, un paravent pour cacher pour la toilette. Diane, maigre, sale aussi, habillée d'un costume pas très propre. Sort de sa chambre. Il descend les escaliers, étroits et sables. C'est sombre. Il va vers la sortie de l'hôtel. Le portier de l'hôtel, qui est un homme grand, mince, chauve, a une veste de laine grise, lui dit, il faudrait, c'est pas oublié, de payer la chambre. Elle lui dit, oui, demain. Eh, il sort de l'hôtel. Il fait nuit. La rue est pavée, mal éclairée. Il y a des immeubles lépreux sans âge. Au-dessus de la porte étroite de l'hôtel est marqué Hôtel Moderne. Il descend la rue en vitesse. Et tombe dans une autre rue, plus animée. Il y a des putes sur le trottoir, vulgaires et moches. Les hommes qui tournent autour d'elle ont l'air de zombies. Quelques cafés, hôtel de la rue, de la musique qui sort des cafés. Yann marche d'un bon pas. Une fille, rousse, maquillée à outrance, habillée avec une robe moulante, verte, va à lui. Où vas-tu, Luc? Il lui dit, j'ai affaire. Il lui dit, n'oublie pas mon pognon, mon chiou. Il dit, je t'en fais pas. Elle l'embrasse sur la joue. Et Yann dit, allez, je me sauve. Yann continue son chemin. Ici, il s'est appelé Luc. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que Luc fait plus passe-partout, à moins qu'il lui semble. Tu ne peux oublier Luc. qui lui semble qu'il n'a pas oublié qui il était. Et en prenant le nom de Luc. Peut-être pour prendre sa place. Il a quitté la rue.
Pardonnez-moi.
Et quitte la rue. Qui descend une autre, de l'autre côté pour aller au port. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.